franceinter.fr.
Je prends la main. Merci beaucoup, Vincent. Et c'est toute l'équipe de La France qui se lève tôt pour vous servir. Stéphane Guenec à la réalisation, Joy Raffin à la préparation, Thierry Dupin à la partition et en ce petit matin à la technique, Jean-Philippe Jeanne et Dofar Garide. Bienvenue.
Le 5-7. Deux.
Touché.
Entre chien et loup.
Touché.
Cette ambiance entre chien et loup.
L'aube, comme on dit. L'aube, bonjour.
Tiens, c'est la voix du matin.
Bonjour, Madame Garcia.
Laurence Garcia.
On le pense mondain, il se dit solitaire et catholique et libertin. Philippe Soler serait un malentendu. À la question « Quoi neuf ?», il répond « Aragon, Molière et Voltaire, des morts plus vivants que certains vivants ». Le dandy Soler se joue de ses masques vénitiens avec son porte-cigare. Plus il agace, plus ça l'excite. Que n'a-t-on dit ou écrit sur l'écrivain éditeur qui publie un livre par an sinon rien depuis un demi-siècle ? Soler, aussi connu que peu lu, mais toujours pas connu en tant que grand romancier. Qu'importe, le catholique sans Christ mène son inlassable croisade du goût à la recherche du discours parfait et de l'éclaircie. C'est son dernier roman en ces temps obscurs. Philippe Soler, c'est notre portrait entre chien et loup jusqu'à 7 heures. Et c'est Lana Del Rey sur France Inter, Video Games à 5h05.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Now you do, now you do.
Philippe Solers, Philippe Solers, Philippe Solers.
Entre chien et loup. Solers est un mot latin qui est la traduction du grec polytropos, c'est-à-dire l'habile, l'ingénieux, le rusé, joyeux, c'est mon nom d'état civil. Je suis un joyau caché.
Eh oui, c'est ça, c'est le jeu de cache-cache du gamin.
Je suis un trésor, Laurence.
C'est ça. Et joyau, il y a l'éclaircie dans le joyau.
Ben, en principe, ça brille. J'ai été très persécuté pour avoir porté ce nom à l'école. Les professeurs se moquaient tout le temps de moi. Ah, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui, joyau. Joyau, vous n'êtes pas spécialement brillant. Ah, ce joyau n'est pas une perle, messieurs.
Ah, vous les connaissez bien, hein, vous vous en souvenez.
Ben, ça frappe l'imagination quand ça revient tout le temps, dit par des abrutis. J'ai des relations particulières avec deux, avec les oiseaux.
Vous leur parlez ? Vous les écoutez ?
Les deux. Hein, c'est comme Saint-François d'Assise, vous savez. Voilà. Et les arbres. Je ne sais plus qui a écrit qu'en prenant beaucoup d'ecstasy, on pourrait faire l'amour avec les arbres. Voilà.
Oh là ! Mais c'est pas vous, non ?
Mais même sans prendre rien. Il y a simplement une facilité ou pas à imaginez ce qu'est un arbre, à le laisser monter vers vous. Voilà, c'est une expérience. À sentir ses racines, ses branchages, les oiseaux dans les arbres aussi. Voilà. J'ai beaucoup observé ça, et ça me donne une sensation étonnante de liberté. Entre chien et loup. j'évite de travailler. Que ça demande un vrai talent de ne pas travailler, vous savez. C'est-à-dire de faire ce qu'on veut, à peu près, et de rester libre. Avec très peu de moyens, parfois, très peu. Donc, ça veut dire une saisie du temps non servile. Il faut garder son temps libre. Si on, voilà. Il y a des contraintes, bien sûr. Je suis un citoyen exemplaire. Aucun problème. Et aucune plainte n'a jamais été formulée contre moi. Mon casier judiciaire est fier.
Vous préférez le verbe être, le verbe avoir, le verbe croire?
Écoutez, jamais Descartes n'a dit j'ai donc je suis. Donc, non.
Temps de conjugaison préféré? Futur simple, passé composé?
Le présent narratif, le présent tout le temps, présent. Au commencement, et le verbe, et non pas été.
Ici et maintenant, avec Philippe Solers.
Voilà.
Bah ici maintenant, tout de suite alors.
Ici maintenant, tout le temps.
Une interview avec Philippe Solers, c'est toujours un jeu de rôle, un jeu d'échecs ou de ping-pong verbal avec ce ludique des mots. Ce beau diseur, au phrasé parfois, souvent flingueur, souvent parfois séducteur. Solers, l'écrivain, le polémiste, le personnage à lire, à suivre donc. En attendant à 5h12, une autre plume, une autre voix, Art Mengo, mes habits et moi.
Mes habits et moi. On fait tous les soirs chambre à part quand je rêve ou bien par le bas sans rien dire, eux vont au placard. C'est une longue, longue histoire. Col roulé secret chuchoté entre Juliette Anco et moi et les pulls plus ou moins feutrés.
Faut bien que tu te mettes à nu en chanson dans des draps brodés. Au fond des yeux dans la rue,
quand je croise des cartons habités.
Debout. Entre chien debout. Et loup, debout. Laurence Garcia. Debout.
Philippe Solers, notre invité une fois par an, puisqu'il sort un roman par an. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Ça va très bien. Un roman par an, non, un chapitre par an. Pas par an d'ailleurs, ça se trouve qu'il y en a eu. Mais c'est le même grand livre, si je peux dire, enfin grand quantité, et en qualité peut-être aussi d'ailleurs. Mais c'est chaque fois un chapitre d'un seul livre. Donc il faut préciser ça parce que on dit souvent Solaire c'est toujours la même chose, ah, forcément.
Non, qu'est-ce qui dit ça?
Ah si, beaucoup de gens disent
ça. Ah bon?
Oui, Solaire c'est toujours la même chose. Eh ben c'est un chapitre de plus.
Un chapitre de 250 pages.
Voilà.
Alors le dernier chapitre de la vie romanesque du romancier écrivain Philippe Solers, c'est l'éclaircie chez Gallimard, forcément. L'éclaircie, ça fait du bien en ces temps obscurs, sombres. Est-ce que ça annonce un prochain siècle des Lumières, monsieur?
Ça a plusieurs significations. D'abord, une signification climatique. Par exemple, aujourd'hui, il y a une éclaircie. Il fait très froid, mais il y a de l'éclaircie. Il y a une signification philosophique, c'est-à-dire que, en effet, ça peut être une lumière qui apparaît dans des temps obscurs. Men in dark times, comme disait Hannah Arendt. Et nous sommes dans des temps obscurs. Et il y a une critique sociale dans ce livre qui est le contre-pied de ce que je propose comme éclaircie à travers des liaisons personnelles et la peinture. Donc on est dans ces époques dépression mondiale, d'agitation, de dévastation et de dépression, qui créent une atmosphère quand même obscure, que vous sentez, que chacun sent dans sa vie. C'est pas seulement le pouvoir d'achat, l'inquiétude pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer en mai lorsqu'il y aura des éclaircies de plus en plus grandes. Ben voilà, on va voir. Donc, voilà, la signification, c'est ça. Et alors, à travers ce mot, on peut faire surgir que dans l'obscurité, si on va jusqu'au bout du noir, si on est vraiment dans le noir, alors peut surgir une autre lumière qui est représentée dans ce livre par des tableaux.
Et par des femmes. C'est difficile de résumer les romans de Philippe Solers. Il y a une volonté de nous perdre, il y a un côté labyrinthique où vous aimez que le lecteur se cherche, se retrouve ou
Non, parce que ça, si c'était labyrinthique, ça n'aboutirait nulle qu'à tourner en rond. Il y a un raisonnement du bout en bout. Un raisonnement et une histoire, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas Je n'hésite pas entre le roman et l'essai. J'invente un genre qu'on peut ne pas aimer du tout. Si on veut suivre une histoire comme un film, évidemment, il ne faut pas ouvrir mes livres. Si on veut au contraire être intéressé par un raisonnement, hein, une résonance particulière, il faut lire plus de 10 pages, puis continuer.
Oh bah oui.
Si on se fatigue tout de suite, oui, mais vous savez, on peut vérifier aujourd'hui, c'est ça un des sujets de mon livre, hein, que 2 pages ou 3 pages, c'est déjà beaucoup pour quelque chose comme l'attention qui n'est pas soutenue. Donc la mémoire est un muscle, s'il n'est pas entretenu, la mémoire dépérit, c'est bien ce qui est en train d'arriver. L'histoire a tendance à disparaître, on supprime par exemple, l'examen de culture générale à Sciences Po, ça a fait couler beaucoup d'encre. J'ai proposé dans tous les médias, si vous recevez des hommes politiques ou des personnalités politiques ou des femmes politiques, vous leur posiez pendant 3 minutes des questions de culture générale incontournables. Enfin, par exemple, je dis qu'on pouvait demander à François Bayrou ce qu'il pensait de l'Olympia de Manet pour qu'il puisse nous donner l'idée de ce qu'il voit quand il voit un nu. Montrez-nous que vous pensez quelque chose. Par exemple, si vous demandez à Marine Le Pen de vous dire quelques mots sur un tableau très, très célèbre, comme Guernica de Picasso, peut-être va-t-elle avoir un embarras, parce qu'il n'est pas impossible que ce soit son père qui était dans les avions qui bombardaient Guernica. Vous comprenez ? Donc, pour chaque œuvre d'art, vous demandez à Nadine Morano de vous parler du bar aux Folies Bergères de Manet, vous demandez à Valérie Pécresse, qui est charmante, comme ça, parfois avec un peu trop de fond de teint à l'Assemblée, vous lui demandez de parler de Sade, etc. Vous voyez ? Donc, vous déstabilisez vos politiques, qui vous parlent tout le temps du triple A, des là, je sais pas quoi, de la TVA sociale, du logement, etc., qui ne vous parle que d'argent, que d'argent, que d'argent, que d'argent, et puis tout à coup, vous faites une piqûre culturelle.
De toute façon, dans votre roman L'éclaircie, Philippe Solers, pour y revenir, on a l'impression à vous lire que c'est soit l'art ou la barbarie, soit le beau ou le fric.
Mais c'est comme ça aujourd'hui, voilà, ouvrez les yeux, voyez.
Mmh. Voilà. Dans ce roman, rentrons dedans un petit peu quand même, les questions de peinture, les questions d'enfance, les questions d'amour, et les questions de désir d'inceste, il y a des questions de face cachée de certains artistes, à travers leurs sœurs, vous parlez de votre sœur à vous, Anne, et des sœurs de Manet et de Picasso. C'est une belle figure, la figure de la sœur pour le frangin, j'allais dire. C'est quoi ? C'est la figure de la femme interdite, finalement ? C'est celle avec laquelle on vit très 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 longtemps, sans forcément la connaître, qui nous est imposée ?
Il y a une grande différence entre, pour un frère, une sœur cadette ou une sœur aînée. Ce n'est pas du tout le même personnage. Et par exemple, quand je parle de Picasso et des relations qu'il a eues avec sa sœur, personne, comme c'est curieux, n'a jamais parlé des sœurs de Picasso. Il en a eu 2.
Et comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé ?
Eh bien, je vous le demande. Mmh. C'est donc un sujet probablement très, très, très tabou, très refoulé. Voilà. Donc, je parle de ma propre sœur qui était mon aînée. Ça commence comme ça. Elle meurt brusquement d'un cancer. Le narrateur, c'est bon. Enfin, c'est aussi l'expérience de ma vie. Et donc, à ce moment-là, je classe des papiers, je classe des photos, et je retrouve une photo où j'ai 2 ans, on est sous un cèdre, et il y a de la lumière, on est dans une éclaircie, elle a 6 ans de plus, etc. Et évidemment que l'enfance partagée apporte énormément de sensations. Et que d'ailleurs, dans les relations amoureuses qu'on peut avoir par la suite, de ma part avec des femmes, on trouve ou pas quelqu'un avec qui partager son enfance, hein, c'est-à-dire le vert paradis des amours enfantines, comme dit admirablement Baudelaire, vous connaissez le poème, mais le vert paradis des amours enfantines, hein, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines avec les broux de vin le soir dans les bosquets. Et écoutez comme c'est beau ça, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Si vous pouvez réinventer ça avec quelqu'un, vous avez en effet gagné en amour.
Ça veut dire que quoi, à travers toutes les femmes que vous avez cherchées ou croisées, Philippe Solers, vous recherchiez la sœur aînée ?
Je recherche l'enfance qui est en question dès qu'il y a ce qu'on appelle en général l'amour. Et l'amour est aussi dégradé que possible dans la dévastation générale. Donc c'est soi. La grossièreté, la pornographie, je ne vais pas faire état de faits divers très 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 connus. Ils sont très niaiseux, les hommes avec les femmes. Hein. Ils croient qu'il suffit de se précipiter comme ça. On a eu un cas célèbre récemment, dans un hôtel de New York. D'accord. Ils ne demandent pas la permission de monter à bord, par exemple.
Niaiseux. Donc, ouais,
enfin bref, bon. Voilà, je crois que c'est une question de de faire avec les corps, de les percevoir. Et ça, les peintres savent le faire. Et comme je prends Manet et Picasso...
Et pourquoi Manet et Picasso?
Parce que Manet a réinventé, à une époque dont personne n'avait l'idée que ça pouvait être fait, le grand art classique. C'est pour ça qu'il a été scandaleux. Et non pas parce qu'il a fondé je ne sais quel art dit moderne. Mmh. Il a réinventé ce que vous avez, c'est-à-dire ce nu insolent que Titien ou Velázquez avaient fait. Tout Paris s'est donné rendez-vous, toute la petite bourgeoisie, ou la bourgeoisie même, ou la plèbe, c'est-à-dire les gens qui n'aimaient que le kitsch que vous avez dans les restaurants des Champs-Élysées, c'est-à-dire des nymphes en perlousé sur des rochers, soi-disant érotiques. Il a suffi que Manet peigne l'Olympia et le déjeuner sur l'herbe, tout le monde est venu cracher et insulter ces tableaux. Ce qui prouve bien que l'art moderne, à l'époque, c'était justement des gens qui aimaient n'importe quoi. Le kitsch, hein, Cabanel et d'autres. Bon, voilà. Et quant à Picasso, ça a été pareil. C'est-à-dire, il a... Quand les Demoiselles d'Avignon, tout à coup, ça a été un coup de tonnerre.
Et sa sœur, la survivante des deux, a servi de modèle pour les Demoiselles.
Picasso... Elle n'a pas servi de modèle à proprement parler, mais elle était dans sa mémoire. Je publie, enfin j'ai fait publier par ailleurs, mais tout le monde s'en fout, ce qui est curieux, parce que Picasso a eu deux sœurs. L'une aînée, donc, qui s'appelait Lola, avec laquelle il a eu une intimité, qui est prouvée par des photographies que Picasso prend à Barcelone, qui était un grand bordel à l'époque. Hein. Et puis une petite sœur qui s'appelait Conchita, qui est morte à l'âge de 8 ans. Et donc deux sœurs. Et à mon avis, il est très motivé par ses souvenirs. Par exemple, dans son grand amour, il s'est appelé Eva, et où il a fait les tableaux les plus audacieux de toute la peinture, c'est-à-dire la période cubiste synthétique. Transformer une femme en violon comme ça, c'est vraiment chef d'œuvre. Vous avez beaucoup de musique dans Picasso.
De la musique, de la peinture, Picasso, Manet, Solers, des histoires de sœurs et de frères secrets, on en reparle dans quelques minutes. À tout de suite.
First time I met her in town, I had a crush on her, my baby brown. Now my heart is bleeding, 'cause I'm looking after her lately in the evening. Oh.
Nous sommes toujours en compagnie en ce petit matin de l'écrivain romancier Philippe Solers pour évoquer son dernier roman, L'éclaircie. L'éclaircie et les histoires de femmes interdites, de sœurs, de frères secrets aussi, à travers Manet, à travers Picasso. Et votre narrateur qui dit « Je suis son petit frère qui n'a pas bonne réputation ». Moi, j'aimerais revenir sur le rapport d'amour entre cette grande sœur qui n'est plus et ce petit frère qui est certainement vous. Il y a une envie aussi de parler de cet amour sans sexe, de ce désir d'inceste qui revient souvent dans cet ouvrage, comme vous dites aussi qu'on retrouve dans la peinture de Manet l'inceste, l'interdit qui dit oui.
Je crois vraiment que toutes les histoires sensuelles assez profondes, pas en passant comme ça, ont toujours, du moins c'est mon expérience, une coloration incestueuse. Je crois que c'est fondamental et que c'est le fait de se défendre contre cette enfance de l'art et cette enfance du plaisir. C'est de là que viennent la plupart des problèmes, des embarras qui polluent la vie des adultes qui sont eux-mêmes, le plus souvent, des enfants ratés.
Des enfants ratés?
Oui. D'où la pédophilie, par exemple. On voit très bien que ça ne peut être qu'une pulsation de vengeance par rapport à l'enfance de l'autre. C'est très très sérieux ce que je vous dis là, parce que les adultes sont des enfants ratés. Ils en veulent autant, ils en veulent à leur mémoire, ils en veulent à ce qu'ils n'ont pas pu formuler. Et d'ailleurs, un enfant est un anarchiste et un poète immédiat. Et si on ne garde pas ça, on se moule dans des contraintes, des devoirs, des appartenances.
Donc l'adulte devient une sale copie, une mauvaise copie, une petite copie comparée à l'enfant qu'il était alors ?
Oui. Ouais. L'adulte est effroyable. Et donc,
mince alors, ça va pas en s'arrangeant alors.
Ah, mais gardez votre enfance, précieusement. Bon.
Vous l'avez gardé, vous, votre enfance ?
Je crois. Mm-hmm. Parce que sans quoi, je n'écrirais pas toutes ces petites choses. Et ça me donne une certaine perception de l'espace et du temps. Alors, les meilleurs sur ce terrain-là, c'est-à-dire très contraire là, au courant, c'est évidemment toujours des artistes, c'est-à-dire des poètes, des peintres, des musiciens, etc. Vous lisez la correspondance de Mozart, par exemple, complète, vous en avez 2000 pages, c'est absolument admirable. L'enfant qui était Mozart, enfin, qui était une curiosité dans l'Europe entière, hein, parce qu'à 6 ans, il composait déjà, à 12 ans, il avait écrit je ne sais pas combien d'œuvres. Là, j'ai pris ces deux exemples-là parce que on sent très bien que l'enfance les habite, et Manet et Picasso. Manet peignant l'Olympia et le déjeuner sur l'herbe. Ce sont deux tableaux qui ont fait scandale, qui sont admirables, que vous pouvez voir tous les jours au musée d'Orsay. Cet Olympia vous regarde d'un air profond, noir et insolent. Vous savez que Manet avait 31 ans. De même quand Picasso peint ses toiles les plus audacieuses. 30 ans, 31 ans. On était remarqué général sous Bonaparte à 25 ans. Donc maintenant, envoyez-nous des gens de 30 ans. Ils feront un printemps futur.
Un printemps futur.
Pour l'instant, je ne les vois pas beaucoup venir.
Non, ils n'ont pas vraiment 30 ans. Écoutez ça, témoignage assez rare. Ça grésille un peu parce que ça date de 1951. On parlait de frères et de sœurs célèbres aussi, parce qu'il peut y avoir des combats d'égo aussi chez les alter-égo. C'est le poète Paul Claudel qui parle de sa sœur.
Oh oui, alors là.
Camille Claudel.
Quelle histoire.
Écoutez donc.
Ma sœur, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas, ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues qui ont frappé M. Alfred Boucher, le statuaire. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris, voulant faire de la sculpture. Moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, ma sœur, mon autre sœur de musicienne. Enfin bref, la famille s'est séparée en deux, mon père est resté à Vassy et nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous sommes installés. Et alors ça a été pour moi une catastrophe dans ma vie parce que toute ma vie a été déchirée en deux, ce qui n'était pas commode.
C'est beau et précieux à la fois la façon dont parle Paul Claudel de sa sœur.
Alors là, c'est tout un roman. Vous avez eu un film, Adjani, Patati, Patata. Là, ce qui est prodigieux dans cette affaire entre frères et sœurs, c'est la pauvre Camille qui est morte folle. Enfin bon, tout ça est resté très obscur. Mais enfin, la grande passion de Camille Claudel, et donc de Claudel contre, ça a été le sculpteur et l'admirable Rodin.
Bien sûr.
Donc elle a commencé là-dessus, elle a été l'élève de Rodin, et ça c'est une passion absolument torride qui a très 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 mal fini. Et là, au fond, la conversion religieuse de Claudel, le fameux pilier de Notre-Dame, il a foncé dans la foi pour se dédommager de son corps qui était finalement assez embarrassé. Sa sœur était très belle. Il y a eu, en effet, ça a été le drame de la vie de Claudel. Mais moi j'écris le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas un drame, c'est au contraire une rencontre tout à fait en filigrane et qui pourrait basculer, mais qui s'arrête au moment où ça aurait pu devenir dangereux pour la suite.
Si votre sœur, ou c'est la sœur du narrateur, était encore vivante, est-ce que vous auriez écrit ce livre, Philippe Solers ?
Mais oui, c'était le moment. J'ai deux sœurs, dont l'une est morte, et ça m'a fait un choc, et celle dont je parle est toujours vivante.
Ah d'accord.
Donc je la rends encore plus vivante. D'accord. C'est-à-dire c'est la peur qu'elle meure.
Et c'est la peur des « je t'aime » qu'on dit trop tard, ou qu'on n'a pas osé dire, ou... Parce qu'il y a un passage où, à un moment donné, ce narrateur se dit « mince, j'ai les regrets, si elle était là, j'irais la voir pour savoir qui elle est, pourquoi elle s'est mariée, pourquoi elle a divorcé, finalement on se connaît sans se connaître, on n'a pas pris le temps. »
Mais vous savez qu'on sait rien des gens. Rien, des clichés, des petites informations de l'état civil. On ne sait rien des femmes, de mes sœurs par exemple, ou alors ses enfants, ses grossesses, son mari, ses maris, ses amants, je ne sais pas. On ne sait rien, il y a un tabou profond, il y a une pudibonderie des familles qui fait qu'on ne sait pratiquement rien, ni de ses parents, ni de ses proches. La société est fondée sur cette espèce de tabou, de silence. C'est très très rare. Dès que quelqu'un déchire un peu le voile, mon Dieu, alors ça fait des histoires. Mais si on est écrivain, on est forcé de le faire.
On est forcé de le faire. Vous êtes arrivé d'être jaloux de votre sœur ? De
non.
ses maris de...
Je vais briser ses maris.
Oui, c'est ça.
Une de mes sœurs, enfin celle-là, m'a dit une chose que je crois que j'écris dans le livre. Je lui demande pourquoi elle a eu des enfants. Et elle m'a dit cette chose sublime qui m'a éclairé. Elle me dit « légitime défense ». C'est beau.
Ah oui.
Non, parce que c'est la seule fois où une femme a dit qu'elle avait fait des enfants par légitime défense.
Genre, il m'a fait l'amour et moi je vais lui coller des mômes.
Ça se dit pas comme ça, mais voyez-vous.
Bon, ça, alors, Philippe Sellers, il y a l'âme sœur, il y a la sœur Anne.
Corps,
et il y a le corps sœur, il y a Lucie, l'éclaircie qui rime avec Lucie. Où là, c'est finalement la sœur avec laquelle on fait l'amour.
Écoutez, oui, parce qu'il se passe une chose que je raconte dans le livre, c'est que je rencontre cette jeune femme de 40 ans, à l'occasion de l'arrivée à Paris du manuscrit des mémoires de Casanova.
On retrouve Casanova.
J'étais là. C'était une matinée splendide au Palais Royal, au ministère de la Culture. Le manuscrit, après deux siècles de plus ou moins d'éditions, plus ou moins fautives, mais le manuscrit, c'est-à-dire l'écriture, la petite écriture de Casanova, 13 heures par jour, quelque part au nord de la Tchéquie, dans un petit château baroque. Bon, et c'est là, sous vitrine. Et il y avait les caméramans, les photographes, qui n'arrêtaient pas de... Je précise que les mémoires de Casanova, l'histoire de ma vie, est écrite en français. C'est un Vénitien, un Italien, qui a écrit en français. C'est un des plus grands écrivains français. Il y avait sur la table le ministre, et puis le descendant de l'éditeur allemand, Brockhaus. Le manuscrit, grâce à un mécène anonyme, était acquis par la Bibliothèque nationale pour 7,5 millions d'euros.
Et l'anonyme ?
Donc il y avait... Et voilà, nous entrons dans le mystère de la chose. Voilà. Et l'anonyme. Bon, eh bien, il se pourrait que, en effet, ce soit d'une part une grande entreprise publique qui veut garder l'anonymat, qui a choisi d'apurer ses comptes, et puis peut-être ce personnage étonnant, collectionneuse, etc., Lucie, que je retrouve ensuite le soir. Bon.
Je retrouve le soir dans mon 5 à 7 de ma rue
du Bac. Non, pas du tout.
Ah, pas encore, pardon.
Pas tout de suite.
Ah bon ?
Non, non. C'est ce que j'appelle un coup de foudre, ou plus exactement un coup de nuit. Un coup de nuit, c'est beaucoup plus profond. Et en effet, je vis quelque chose, par transposition, que j'aurais pu vivre avec cette sœur qui est morte. Voilà. C'est comme si cette morte se réincarnait, si vous voulez, dans une sorte de roman fantastique, dans ce personnage. Mais le problème, c'est que je voulais marquer, par cet épisode, qu'on ne voit que des images ou l'argent. Et j'étais obligé de faire remarquer aux photographes et aux caméramans que c'était écrit en français. Ils ne le voyaient pas.
Non, ils photographiaient, eux, les 7 millions d'euros.
Et voilà, ouais. 7 millions et demi.
Et demi, pardon.
Et j'ai trouvé que ça faisait une très belle fable pour notre temps, à savoir Casanova, finalement, on s'en fout. Et alors, que vous avez 100 restaurants Casanova, des produits de beauté Casanova.
Donc le business.
Des fonds de teint Casanova, des rouges à lèvres Casanova, des implants mammaires Casanova.
Au secours,
oui, enfin, vous avez un fric énorme qui se passe. Et au carnaval de Venise, vous avez toujours des mannequins Casanova pour présenter la mode, etc. etc. Or, c'est d'une fausseté affolante.
Voilà, dans l'éclaircie, on retrouve aussi la grande histoire d'amour de Philippe Sellers avec Casanova. Bob Dylan, je ne sais pas si c'est trop votre univers.
Non, mais...
C'est pas grave.
Il y a plein d'univers.
C'est bien, un univers aussi un peu comme ça.
La multiplicité des univers, mais oui, c'est, j'aime bien.
Les éclaircies dans le sombre.
Oui. Quelle joie de se réveiller le matin, là, de voir filtrer le jour, etc. Et voyez, c'est ça, oui. L'aube, comment on dit, l'aube.
Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you. And you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay.
stay with your man a while. Until the break of day.
C'est Bob Dylan sur France Inter qui nous accompagne avec Philippe Solers dans votre roman L'éclaircie. C'est plutôt Haydn, Mozart. Il n'y a pas vraiment Bob Dylan, hein. Vos frères éclairés ou vos frères demi-frères. Ces figures des frères d'ailleurs, hein, les Manet, Picasso, on parle des sœurs.
Non, je n'ai pas le sens de la famille pour l'art. Un artiste, je parle de ma sœur, mais ça ne veut pas dire que je rentre dans des considérations familiales. J'ai horreur des gens qui balancent tout le temps, et ça, Dieu sait s'il y en a, leur roman familial dans la nature, comme ça, la barbe. Non, ce n'est pas de famille qu'il s'agit, il s'agit de gens qui ont réussi, en payant le prix, à s'autonomiser complètement, à se singulariser complètement. Ça m'intéresse beaucoup. Que ce soit des musiciens, des peintres, des écrivains. Il faut sortir, sinon la famille revient et vous dévore. La famille, c'est la société, c'est la famille. Bref, tout ça, c'est pareil. Personne ne doit sortir vivant de cette affaire.
Bah, la mort, elle est présente hein, dans ce roman-là aussi. Hein.
Mais heureusement qu'elle est présente, sans quoi la vie ne serait pas ressentie.
C'est une vieille cousine, la mort, parce que comme on parle de famille, c'est une cousine éloignée, c'est une cousine qu'on ne veut pas trop voir, c'est une cousine qui nous barbe, qu'on croise à certains repas de famille.
Vous avez deux formulations sur la mort qui me paraissent extraordinairement justes. Une de Nabokov, qui savait de quoi il parlait. La mort est un honteux secret de famille. Mmh. Ou alors vous avez celle de Mozart, dans une lettre fameuse, célèbre, à son père d'ailleurs. C'est la meilleure amie de l'homme.
Et pour Solaire, ce serait quoi, vous ?
La mort est claire, l'amour est précis. Ah, voilà, ça, là, c'est la mienne. Mais vous avez celle de Voltaire. La vie est un enfant qu'on doit bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme.
Ah, elle est pas mal, celle-là aussi. Hein. Mmh. Mmh.
Et c'est tout ce que je sais, dit Voltaire. C'est beau.
Moi, je pense celle de Solaire, c'est de Voltaire.
France Inter. Faire.